Aujourd'hui, nous allons voir un évangile. Alors, est-ce que l'évangile de Marc, c'est le premier ?
Dans l'ordre chronologique ?
Non, qu'est-ce qu'il y a avant Marc ?
Matthieu.
Pourquoi est-ce qu'on verrait l'évangile de Marc d'abord ? D'abord, il y a moins d'histoires. Puis en plus, dans les autres évangiles, on a déjà toutes ces histoires. Pourquoi ils ont pris l'évangile de Marc ? C'est une question que certains chrétiens s'étaient posée dans les premiers siècles. Et on croyait que l'évangile de Marc était un résumé de l'évangile de Matthieu. Ensuite, dans les deux derniers siècles, les gens ont commencé à regarder plus précisément. Et se sont rendus compte que non. Au contraire, les récits de Marc avaient des éléments que nous retrouvons dans aucun évangile. Des éléments d'une description de type narratif, des histoires, qui est très proche de l'esprit juif. Et alors, la semaine dernière, on a eu Romain, qui est une pensée de type grec. Là, nous avons l'évangile de Marc, qui est présenté pour les juifs et les païens. Il y a des endroits où Marc va expliquer, pour les gens non juifs, qu'est-ce que ça veut dire de se laver les mains, pourquoi les juifs faisaient ça. Mais Marc va parler avec une approche très juive, très hébraïque, d'une culture orale. Et dans les cultures orales, on enseigne à travers les histoires. Et donc les évangiles en général, Jean sera entre les deux. Mais les trois premiers évangiles, Matthieu, Marc et Luc, sont adaptés à la pensée orale. C'est par des histoires. Et quand on vient à ces histoires, quand on n'est pas habitué, on peut être un peu désarçonné, on est surpris. Parce que finalement, les histoires, c'est un moyen très puissant d'enseigner. Dans la culture française, qui c'est qui a essayé d'enseigner par des histoires qu'on connaît bien ? Il y a eu La Fontaine. La Fontaine qui a repris les fables d'Ésope, qui les a développées, pour pouvoir enseigner à travers les histoires, la morale, les fondements de l'action juste. De même, les évangiles sont là pour nous enseigner non seulement comment Jésus nous appelle à vivre notre vie, mais ces livres, ils s'appellent comment ? Ils s'appellent les évangiles. Un évangile, qu'est-ce que ça veut dire un évangile ?
Une bonne nouvelle.
Une bonne nouvelle. Et quand on dit bonne nouvelle, Paul, lui, il l'avait bien compris, c'était dans les deux premiers chapitres de l'Épître aux Romains, pour qu'il y ait une bonne nouvelle, il faut toujours qu'il y ait une mauvaise nouvelle avant. Si vous n'avez aucun problème, vous ne pouvez pas recevoir une bonne nouvelle. Si votre vie se passe bien, que vous êtes joyeux, heureux, il n'y a aucune bonne nouvelle dont vous ayez besoin. Si vous avez un problème, vous pouvez recevoir une bonne nouvelle. Ça sera le cas avec l'évangile de Marc. Le peuple juif savait très bien qu'il y avait des problèmes. Les problèmes, c'est qu'ils n'avaient pas été fidèles à Dieu. Ils étaient revenus en Israël après l'exil, mais ils voyaient bien qu'il y avait des problèmes. Un des signes clés de leurs problèmes, c'est qu'ils n'avaient toujours pas de roi. Ils avaient l'Empire romain qui était devenu chef. Et leur espoir était très simple. Ils espéraient revenir au temps de David, avec un roi qui allait chasser les Romains. C'est leur espoir. Ils se disent, la bonne nouvelle qu'on attend, c'est le Messie. Et qu'est-ce qu'il va faire le Messie ? Il va chasser les Romains. Et donc, quand on va commencer à parler de la bonne nouvelle, de l'annonce du Messie, ça va être quelque chose qui va être difficile à comprendre. Et nous allons voir comment les apôtres, les disciples de Jésus, vont avoir beaucoup de mal à comprendre ce qu'est la bonne nouvelle. On va le voir en détail. Et en même temps qu'ils ont du mal, Jésus va continuer à enseigner, va leur dire qu'il n'est pas venu pour renverser l'Empire romain, mais pour annoncer une délivrance encore plus profonde que la délivrance de Rome. Il est venu pour annoncer la délivrance du péché. Jésus n'est pas venu pour délivrer de problèmes politiques d'abord, mais du problème du cœur humain, le plus important qui est le péché. Nous allons parcourir maintenant l'évangile de Marc, qui est, nous pensons, à l'état des connaissances actuelles, le premier qui a été écrit, et qui a été écrit avec une fraîcheur. On pense que Marc était en contact direct avec Pierre, qu'il connaissait bien Paul, qui lui avait transmis les histoires de Jésus. Et donc, vous voyez un petit peu le caractère de Pierre dans son état le plus brut, ici. Alors, vous prenez ce petit graphique. Vous voyez, il y a quatre parties. En vert, en haut, vous avez la première partie. Ensuite, vous avez en bleu, un petit carré seul et puis quatre carrés, ça va être la deuxième partie. Troisième partie, ça va être un triangle. Et la quatrième partie en triangle aussi. Vous voyez ? On peut dire qu'il y a deux premières parties, ensuite les deux dernières. Les deux premières se passent en général en Galilée ou dans le nord de Jérusalem. La deuxième partie se passera toute à Jérusalem. La première partie, pour s'en rappeler, c'est 2 fois 5 chapitres. Les 5 premiers, puis les 5 suivants. Dans les 5 premiers chapitres, ça sera le début du ministère de Jésus. Jésus va enseigner, va appeler des premiers disciples, mais il ne va pas encore leur donner de ministère. Il va leur faire observer et les préparer à pouvoir mettre en pratique ses enseignements. Dans les chapitres 6 à 10, il va continuer Jésus à enseigner, mais va donner des responsabilités aux disciples qui vont commencer à exercer un ministère. Donc c'est ministère avec les apôtres, chapitres 6 à 10. Ensuite, le chapitre 11 à 13, donc 3 chapitres, vous voyez la deuxième partie, première partie, 5 et 5 chapitres, deuxième partie, 3 et 3. Donc deuxième moitié, si on peut dire. Dans la deuxième moitié, la partie 3, c'est ministère de Jésus à Jérusalem. Ministère à Jérusalem. La dernière partie, Jésus va être crucifié, va être condamné, crucifié et ressuscité. Et si on veut résumer cette partie, c'est très simple. Victoire sur la mort. Jésus va être victorieux sur la mort, qui était la première conséquence du péché. Dieu avait dit à Adam, si tu prends de ce fruit, si tu désobéis à moi, et le péché c'est désobéir à un enseignement connu de Dieu, selon ce que l'on trouve dans la première épître de Jean comme définition. Si tu désobéis à mon enseignement et que tu manges de ce fruit, tu vas mourir. Une conséquence directe du péché, la mort. Vous retrouvez dans l'épître aux Romains par exemple, chapitre 6, je crois le verset 21 ou 23, le péché entraîne la mort. Le salaire du péché, c'est la mort, plus précisément. Alors, vous avez finalement ces 4 parties. Je vais vous faire répéter après moi. La première partie, 1 à 5, c'est début du ministère de Jésus. Vous pouvez répéter avec moi ? Du ministère de Jésus. Vous vous rappelez, les deux premières parties, ça fait de 1 à 10, donc 5 et 5, c'est pas compliqué pour les numéros. Donc, 1 à 5, début du ministère de Jésus, avec moi ? 1 à 5, début du ministère de Jésus. Ensuite, 6 à 10, ministère avec les apôtres. Vous pouvez répéter ? 6 à 10 ? 6 à 10, ministère avec les apôtres. Donc c'est tout simple. Ensuite, c'est l'entrée à Jérusalem et la fin. Donc 11 à 13, ministère à Jérusalem. À vous. 11 à 13, ministère à Jérusalem. 14 à 16, victoire sur la mort. 14 à 16, victoire sur la mort. On va voir qui a une bonne mémoire, on cache les graphiques. Ah, vous allez voir, c'est de la torture ici. Hein. Alors on joue parce qu'il n'y a pas de stress, mais mon but c'est de vous encourager à mémoriser, à avoir une vision globale de tous les livres bibliques. Alors, où est-ce qu'on a les deux moitiés ? La première moitié, c'est combien de chapitres ? 5 plus 5. Voilà, la première moitié de l'évangile. La deuxième moitié, combien de chapitres ? 3 et 3. Les 5 premiers chapitres, c'est quoi déjà ? Début du ministère. Et juste après, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, ministère avec les apôtres. Après, quand on a la deuxième moitié, on a la partie numéro 3, ça va être quoi ? De 11 à 13. Et on finit par quoi ? C'est pas compliqué ? Il est facile celui-là ? Ouais. Donc si c'est facile, je vais pouvoir vous faire répéter régulièrement. Mon but est très simple, que vous connaissiez la parole de Dieu, que vous vous y retrouviez et que vous ayez des repères pour pouvoir bien comprendre la progression. Une des erreurs que nous pouvons faire, c'est on prend un verset et on trouve qu'il est beau et on le met en pratique sans savoir tout ce qu'il y a autour, et en perdant ce qu'il y a autour, on perd beaucoup du sens de ce que nous enseigne ce verset. Et c'est très important d'avoir une vision globale, progressivement, des livres bibliques. Donc nous avons ici une présentation globale pour l'évangile de Marc. Maintenant nous allons voir un à un les chapitres, en survol rapide bien sûr. Alors je vais faire prendre, vous avez normalement tous vos Bibles. Alors on va commencer de ce côté avec Pierre et Juliette. Alors, Pierre, tu vas prendre, c'est facile, Marc chapitre 1 verset 1. Juliette, tu vas prendre Marc chapitre 1, versets 10 à 11. Ensuite, Alexandre, tu vas prendre le verset 22. Anton, tu peux lui prêter pour ce coup-là ? Hein ?
C'est lui qui me prête.
D'accord. Alors, Anton, tu vas prendre le verset 35 du chapitre 1. D'accord ? Et je vais raconter brièvement l'histoire et ensuite vous lisez. Alors, Marc, c'est quelqu'un de très direct. Il n'y va pas par quatre chemins. Il ne raconte pas une histoire longue, puis après il dit pourquoi. Il déclare dès le premier verset de quoi il va parler. Est-ce que Pierre, tu peux nous lire Marc chapitre 1, verset 1.
Le commencement de l'évangile de Jésus-Christ.
D'accord, donc très simple. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Dans cette phrase, vous avez plein de théologie. Commencement de l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Bonne nouvelle pourquoi ? Le peuple attendait un sauveur, quelqu'un qui allait les délivrer des problèmes qu'ils avaient. Et Jésus vient pour les délivrer. Ce qu'il ne leur dit pas tout de suite, et c'est pour ça qu'il va attendre longtemps avant de dire qu'il est le Messie, c'est que ce dont il vient les délivrer n'est pas ce à quoi ils s'attendent. C'est quelque chose de plus important que ce qu'ils croyaient. Ensuite, bonne nouvelle de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est tout un cours de théologie. Jésus, en hébreu, Yeshua, ça voulait dire « Dieu sauve ». Donc rien que son nom, ça voulait dire qu'il venait pour sauver, pour délivrer les personnes. Ensuite, Jésus-Christ, Christ, ça veut dire « celui qui est oint de Dieu ». En hébreu, ça s'appelle « Messie ». Et ça veut dire que c'est celui qui est oint de Dieu qui va amener à l'accomplissement le plan de Dieu. Ensuite, le Fils de Dieu, ça c'est le plus gros morceau. Il n'est pas seulement homme, il est Fils de Dieu. Il est vrai homme et vrai Dieu. Vous avez toutes les bases de la foi chrétienne en un verset. Si vous le décryptez, que vous l'analysez, vous avez le début. Donc, Marc, vous voyez, c'est du direct. Et juste après, il va annoncer comment Jean le Baptiste prépare le chemin pour Jésus. Il n'est pas celui qui est premier. Jean le Baptiste va dire quelque chose de très surprenant. Il va dire, quand il annonce Jésus, « Je ne suis pas digne de m'abaisser et de dénouer la courroie de ses sandales. » Ça sera au verset numéro 7 qu'il dit ça. Et cette affirmation est choquante parce que dans la culture de l'époque, les esclaves, on ne pouvait pas exiger d'un esclave d'enlever les chaussures de son maître parce qu'on considérait que c'était trop dégradant, que c'était trop humiliant. Et ce que Jean le Baptiste est en train de dire quand il dit « Je ne suis pas capable de dénouer la courroie de ses sandales, je ne suis pas digne. » Il dit « La différence entre moi et Jésus, et celui qui vient après moi, est tellement grande que je suis bien en dessous de la relation entre un esclave et un maître. » Non seulement dénouer la courroie des sandales, ça serait trop facile pour moi, je ne peux même pas, je ne suis même pas digne de ça. Donc il est en train de dire « La différence entre moi et Jésus est plus grande que la plus grande différence entre deux personnes humaines dans ce monde. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire à travers ça ? Il est en train de pointer à la divinité de Jésus-Christ. Il est en train de dire « Jésus est au-dessus de l'humanité. » Il y a quelque chose de plus qu'humain en Jésus. Il est vraiment homme et il est vraiment le Fils de Dieu. Et il va dire « Moi je vous baptise d'eau, lui vous baptisera d'Esprit Saint » au verset 8. Ensuite, en continuant, Jésus va être baptisé par Jean. Et je vais demander maintenant à Juliette de lire les versets 10 à 11. Quand il sort de l'eau, après le baptême.
Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Une voix retentit alors du ciel. « Tu es mon fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. »
Merci Juliette. Finalement, on voit que Jésus est celui qui est accepté par le Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis toute mon affection, ça pourrait être une autre traduction, l'Esprit-Saint qui descend sur lui. Le ministère de Jean le Baptiste avait été annoncé par un prophète, le prophète Habacuc, qui avait dit « Élie va venir pour ramener le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers les pères. » Et c'est le but du ministère de Jean le Baptiste, d'amener à la repentance d'abord. Et qu'est-ce qui va se passer en Jésus ? Jésus va être celui qui donne l'exemple de ce retour du cœur des pères vers les fils et des fils vers les pères. Jésus va être dans une communion parfaite avec son Père Céleste. Et nous inviter nous-mêmes à vivre cette communion avec le Père Céleste. et par la grâce de Dieu à avoir des familles qui sont renouvelées, dans lesquelles, si les personnes de la famille acceptent Jésus comme Seigneur, elles vont pouvoir renouveler tous ces liens dans une harmonie qui avait été perdue. Ensuite, Jésus va être amené au verset 12 dans le désert par l'Esprit Saint. Et au verset 13, on voit qu'il est tenté et qu'il est parmi les bêtes sauvages, mais que des anges vont le servir. Ensuite, nous arrivons à l'histoire suivante. Jésus va prêcher et la première chose qu'il va prêcher, c'est ce que nous voyons au verset 15. Est-ce que, Alexandre, tu pourrais nous lire le verset 15 ?
Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle.
Ces quatre morceaux, une fois j'avais fait un sermon rien que sur ces quatre mots, ces quatre parties. Le temps est accompli. Ça, c'était un message clé pour les Juifs qui attendaient le jour du Seigneur, le moment où Dieu allait finalement révéler le salut pour Israël. Le jour est accompli, le royaume de Dieu est proche. En gros, Dieu s'est approché. Et son royaume, pour qu'il y ait un royaume, vous avez besoin de deux choses. Vous avez besoin d'un roi et vous avez besoin de sujets. Le roi, on sait qui c'est, Dieu. Et Jésus va inviter les personnes à redevenir sujets de Dieu, obéissant à Dieu et soumis à sa volonté. Deuxième point, troisième point, repentez-vous. Alors attendez, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, donc c'est un premier point. La repentance n'est pas une option. Se détourner du péché est la préparation pour accueillir l'Évangile. Si on ne se détourne pas du péché, n'espérez pas recevoir et Jésus et un esprit impur à la fois. Vous ne pouvez pas avoir les deux dans votre cœur. Pour devenir agréable à Dieu, il faut se détourner par la foi quelque part, de dire « je ne veux plus faire ce qui est mauvais ». Si vous continuez à faire ce qui est mauvais, ne soyez pas surpris que Dieu ne vous parle pas. C'est logique. Vous ne pouvez pas avoir... et Dieu et Mammon comme maître. Jésus l'expliquera très clairement. Il dira, nul ne peut avoir de maître. Ou il aime l'un et méprise l'autre, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre. Vous ne pouvez pas servir et Dieu et Mammon. Et la repentance, c'est pour passer d'une soumission à une nouvelle. Et juste après avoir dit repentez-vous, au verset 15, Jésus dit, et croyez à la bonne nouvelle. Croyez, c'est la foi. Croyez à la bonne nouvelle que Jésus, que Dieu vient nous délivrer. Et on va apprendre à travers Jésus de quoi Dieu vient nous délivrer. Il vient nous délivrer de nos cœurs égoïstes, amers et destructeurs, pour être vraiment libres d'aimer et de se réjouir dans ce monde et dans le monde à venir. Ensuite, Jésus va appeler les premiers disciples. Il va appeler d'abord Pierre et André son frère, ensuite Jacques et Jean. Et quand il va venir à la synagogue, il va se passer quelque chose d'étrange. Il enseigne à la synagogue et les gens vont observer quelque chose de particulier dans son premier enseignement. Anton, est-ce que tu... non, c'est pas Anton. Alors, attends. Si c'est Anton. Pardon. Anton, je vais donner le 35. Tu peux nous lire le 22, Alexandre ? Il enseignait avec autorité. Des fois, il y a des gens qui croient que l'autorité, ça vient d'un ensemble de choses qu'on nous a données. On a fait tant d'années d'études, on a reçu tel titre, je suis docteur, je suis telle chose. Dans une certaine mesure, oui, dans l'église, par exemple, le rôle de pasteur, il y aura une validation. Mais la plus grande autorité que Dieu donne, c'est celle qu'il donne directement. Et Jésus, il n'a pas étudié avec des rabbins. Il vient et les gens reconnaissent qu'il a une autorité différente des autres. Ils reconnaissent que Jésus a une autorité particulière. Et cette autorité va se manifester le plus clairement juste après, parce qu'alors qu'il enseigne, un démon se manifeste et il va chasser ce démon. Et ils vont s'étonner, ils vont dire « il a une autorité différente de ce qu'on connaît », ça sera au verset 27. « Il a autorité même sur les démons ». Et cette autorité, il y a une personne qui va le connaître, comprendre très bien. La personne qui comprendra le mieux pendant le ministère de Jésus pourquoi Jésus a autorité, ça ne va pas être un juif, ça sera un centurion romain qui viendra à lui, et quand Jésus propose de venir, il lui dit « Tu n'as pas besoin de venir chez moi. Moi, je suis un homme qui suis soumis à l'autorité et j'ai d'autres personnes soumises à moi. Je dis à l'un « Va » et il va. Viens et il vient. Dis seulement une parole et mon serviteur ou mon fils, suivant les différents passages, sera guéri. » À travers cela, on voit que le centurion a compris. Il a compris que Jésus était complètement soumis à Dieu. Et comme il était soumis à son supérieur, tout comme lui, le centurion était soumis à son supérieur, Jésus a autorité complète et il peut faire ce qu'il veut dans ce monde parce qu'il est soumis à Dieu. Est-ce que vous voulez de l'autorité dans ce monde ? Je vais vous dire, c'est très simple. Plus vous serez soumis à Dieu, plus vous aurez d'autorité. Moins vous serez soumis à Dieu, moins les gens vous respecteront. Vous pourrez essayer ce que vous voulez. Vous pouvez essayer tous les diplômes que vous voulez. Ça ne vous portera pas, n'apportera pas le fruit que vous pouvez souhaiter. Si votre vie est entièrement soumise à Dieu, vous allez être surpris de l'autorité que Dieu vous donne, simplement. Et je vous encourage à ne jamais oublier cela. C'est une des clés du ministère de Jésus. Ensuite, Jésus, son autorité, il va la manifester sur les maladies même et sur les démons. Donc, d'abord, au verset 29-34, il va guérir plusieurs. Ensuite, on va aller au verset 35. Et n'oubliez pas que Jésus est le Fils de Dieu. Donc, on pourrait se dire, il n'a rien à faire pour être en relation avec Dieu. C'est naturel. Est-ce que, Anton, tu pourrais nous lire le verset 35 ?
Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit par là, parlait dans un désert où il pria.
Merci. Jésus, c'est tout simple. Hein. Il s'en va très tôt le matin, avant que les autres soient réveillés, pour prier. Son ministère a commencé, il y a plein de gens autour de lui. Il a du mal à être seul. Il va s'éloigner pour un temps, pour prier, pour renouveler la relation avec le Père, parce que lui veut nous donner l'exemple aussi à suivre. Et lui, le Fils de Dieu, n'a pas hésité au milieu d'un ministère très efficace d'aller prier. Ensuite, les disciples vont venir, vont lui dire « Mais pourquoi tu es parti ?» Et Jésus lui dira « Je dois parler à d'autres endroits, je dois prêcher dans d'autres villages, je ne dois pas me limiter à juste un village, il faut vraiment annoncer partout où je peux. » Et ça sera la fin du chapitre 1, va finir par la guérison d'un lépreux. Et Jésus lui dira « Va te montrer au sacrificateur, au début du ministère de Jésus. » Jésus respecte toutes les règles du judaïsme. Une des règles, c'est si un lépreux était guéri, il fallait qu'il aille voir un prêtre ou sacrificateur pour qu'il soit reconnu comme pur, pour qu'il puisse être réintégré dans la communauté. Mais le lépreux ne va pas faire ce que Jésus a dit, il va aller annoncer, et à cause de ça, ça va faire qu'il y a des trop grands nombres de foules. Et à cause d'une trop grande foule, Jésus a du mal à enseigner. Nous allons voir au chapitre 3 la stratégie que Jésus utilisera pour continuer à enseigner même quand il y a trop de monde qui se rapproche de lui. Ça, c'est la fin du chapitre 1. Chapitre 2, c'est les premières controverses. Il va avoir une controverse dans le chapitre 2. Alors, on va prendre trois versets. Laurence, tu vas prendre chapitre 2, verset 5. Chapitre 2, verset 5. Colline, tu vas prendre chapitre 2, verset 17. Alors, Marie-Josée, tu vas nous prendre chapitre 2, verset 27 et 28. Et je vous dis quand je vous demanderai de les lire. Donc, Jésus va commencer par dire quelque chose de choquant. Un homme est apporté par quatre autres hommes qui veulent l'apporter à Jésus parce qu'il est paralytique, ne trouve pas de place parce qu'il y a trop de monde autour, monte sur le toit, ouvre un trou dans le toit et font descendre le paralytique. On arrive au verset 5, Laurence. Est-ce que tu peux nous dire les paroles que Jésus va dire quand il voit ça ?
Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique : Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés.
Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Deux choses. Il le reconnaît comme un fils. Il est quelque part un représentant de Dieu le Père sur terre. Et il va lui dire : Tes péchés sont pardonnés. Et là, ça va être chez les pharisiens et les scribes une discussion très critique en disant « Il n'a pas le droit de pardonner les péchés. Seul Dieu est capable de pardonner les péchés. » Jésus va répondre, il va leur dire « Ah, seul Dieu est capable de pardonner les péchés. » Qu'est-ce qui est le plus facile, de dire « Tes péchés sont pardonnés » ou de lui dire « Lève-toi et marche. » Et là, il va justifier par cet exemple, c'est en, dans le monde hébraïque, c'était une des techniques d'argumentation les plus connues. Le terme technique, c'était un calvaromer. Si le plus dur est démontré, le plus simple est assuré. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va lui dire, bon, ben, on va voir, puisque vous avez un doute, lève-toi, prends ton graba et rentre chez toi. Ton graba, ça veut dire ton lit, ta civière. Il se lève, part et va chez lui. Et tout le monde était émerveillé. À travers ce point, Jésus rappelle au début de son ministère qu'il est appelé à pardonner les péchés et qu'il en a le pouvoir, ce qui est incroyable. Et les scribes ont bien compris, quand ils ont dit « Seul Dieu a ce pouvoir », ils ne sont pas prêts à l'accueillir pour l'instant. Mais Jésus est Dieu. Jésus et Dieu, ce ne font qu'un. Et ça, c'est choquant pour eux. Ensuite, il va appeler Lévi, qui est un collecteur d'impôts. Collecteur d'impôts, c'est les plus méprisés de tous les gens de la société juive. Non seulement il est du côté des Romains, parce que les collecteurs d'impôts, c'était des gens qui collectaient les impôts pour qui ? Pour les Romains. Donc c'était considéré comme des traîtres. Non seulement il était un traître, mais un collecteur d'impôts, la technique, ça marchait comme cela. On lui disait, tu dois pour ce quartier dont tu es responsable, nous ramener telle somme d'impôts. Demande autant que tu veux, à qui tu veux, tu as l'autorité, tu peux même demander à des soldats romains d'emprisonner des gens qui ne font pas ce que tu demandes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que concrètement, il pouvait faire autant de marge qu'il voulait. Par exemple, disons qu'il venait voir Dominique et il savait que en proportion, ça aurait été 100 euros qu'il aurait eu besoin de Dominique. Il vient voir Dominique, il lui dit « Dominique, soit tu m'amènes 1000 euros demain, soit j'appelle les Romains. »
Hein ?
Ah oui, mais c'est ce que moi je dois donner aux Romains. Mais ensuite, toi, ce que tu dois donner à moi, j'ai envie de recevoir plus. Donc je vais te dire, toi tu ne sais pas ça. Ce que tu sais juste, c'est ce que je vais te demander. Je te dis, Dominique, pour toi, c'est 1000 euros. Tu dois me les amener dans une semaine. Si tu ne les amènes pas, j'appelle les Romains, ils te mettent en prison et tu peux avoir ta famille rendue esclave. J'attends. Qu'est-ce que ça faisait comme type de relation entre les collecteurs d'impôts et les gens du peuple ? Une haine profonde. Et Jésus va amener dans son équipe un collecteur d'impôts et un zélote. Les zélotes, c'est ceux qui étaient révolutionnaires, ceux qui voulaient tuer les Romains. Vous imaginez la sympathie qui peut exister entre un collecteur d'impôts, Matthieu, et il y aura, je crois que c'est Simon le Zélote, comment ça devait être grand la tension. Mais Jésus va montrer que dans sa communauté, on peut se pardonner, on peut vivre dans une relation harmonieuse même s'il y a des tensions très fortes. Ce collecteur d'impôts, Jésus va l'appeler. Non seulement il va l'appeler à le suivre, mais il va aller manger chez lui avec d'autres collecteurs d'impôts et des prostituées. Les pharisiens vont critiquer, vont dire « Comment se fait-il que votre maître aille manger avec des pécheurs ?» Et c'est là que Jésus va dire la phrase très importante du verset 17. Colline, tu pourrais nous lire le verset 17 ?
Oui. « Ce que Jésus ayant entendu, il le dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs.
Le but de Jésus, ce n'était pas d'être sympa avec ceux qui étaient gentils. Le but de Jésus, c'était de venir annoncer la lumière de Dieu au milieu des ténèbres. Et combien Dieu pouvait délivrer des ténèbres, même quelqu'un comme Matthieu, même des prostituées, même des femmes possédées de démons comme Marie de Magdala. Jésus est venu annoncer le salut, la délivrance. Et paradoxalement, c'est parfois ceux qui se croient pieux qui seront les plus difficiles à évangéliser. Vous aurez des gens, des fois, qui vont avoir l'aspect religieux, mais leur cœur est plein d'amertume et de critique en disant « Un tel, il ne vient pas assez souvent à l'église. Une telle, elle ne s'habille pas comme il faut. » etc., etc. Et ce cœur jugeant, c'est plus grave et Jésus va le montrer dans le chapitre. Ça sera au chapitre 7 qu'il parlera de cela. On finit le chapitre ensuite avec une discussion sur le jeûne. On lui demande pourquoi tes disciples ne jeûnent pas et il va dire « Pour l'instant, ils ne jeûnent pas mes disciples, mais ensuite, quand je serai parti, ils jeûneront. » Alors ça, c'est un des points dans le christianisme moderne. On est un peu oublié. On est un peu des... je lisais un livre où un monsieur disait « King Stomach », c'était un livre en anglais, « Le roi estomac ». On a tellement peur de ne pas avoir assez à manger que la plupart des gens dans notre société ont peur de manquer un repas. Alors que non seulement physiologiquement ça ne pose aucun problème, mais ces mêmes saints, les médecins ont même démontré, depuis les premiers médecins, depuis Hippocrate, les médecins aujourd'hui donnent leur serment selon Hippocrate, et Hippocrate encourageait à quoi ? À jeûner régulièrement. Et le jeûne purifie le corps de toxines, donc même au niveau médical, c'est justifié, avec sagesse bien sûr. Et Jésus dira, pour l'instant non, mais après que je serai parti, après mon ministère sur terre, mes disciples seront invités à jeûner. Juste après cela, il va parler des outres anciennes, outres neuves, qui parlent en fait d'être renouvelées, de ne pas s'attacher à tout plein de choses, mais vraiment s'attacher à Jésus en premier. Et ça, on finira par l'histoire à propos des épis le jour du sabbat. Ses disciples vont prendre à manger le jour du sabbat dans les champs. C'est autorisé selon la loi juive. Ceux qui sont pauvres ont le droit de prendre parmi les épis ce qui a été laissé par les moissonneurs. C'était une mesure pour les pauvres qui était autorisée. Mais normalement, les juifs disaient pas le jour du sabbat, c'est considéré comme un travail. Et Jésus va dire d'abord, quand David avait faim, il a été manger les pains de proposition, des pains dans le temple qui étaient interdits de manger normalement, parce qu'il avait faim. Et il va expliquer pourquoi il a fait cela au verset 27 et 28. Marie-Josée, je peux vous demander de lire ?
Alors, verset 27. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. De sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Mmh.
Merci. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Le but de Dieu, c'était de donner un exemple qui était bon pour l'homme. Pour l'être humain, on a besoin de s'arrêter une journée par semaine pour se reposer. Si vous travaillez sans arrêt, vous allez être moins efficace pour votre travail. Et c'est très frappant de voir la différence. Quand j'ai commencé à devenir chrétien, des fois j'ai eu tellement de travail. Quand j'étudiais aux États-Unis, j'avais plus de 80 heures de travail par semaine. J'avais deux travails. J'avais un travail en base de données, 20 heures par semaine, un autre travail d'enseignant d'hébreu, et j'étais étudiant à plein temps. Mais j'ai été fidèle à Dieu. J'ai gardé le sabbat et j'ai été surpris de voir comment Dieu m'a aidé à vraiment faire tout ce que je devais faire. On aurait pu, par la peur, dire « Non, je n'y arriverai pas ». Et finalement, j'ai découvert que le rythme du sabbat nous donne d'être plus efficace pendant nos temps de travail. C'est comme si vous voulez travailler sans dormir, vous n'allez pas travailler très longtemps. Le corps a un rythme, que ce soit le jour et la nuit, et aussi 6 jours de travail et 1 jour de repos sont bons pour notre corps, et c'est une partie de la relation avec Dieu. Mais Jésus dit, attention, ce n'est pas une règle absolue, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Et juste après, il dit quelque chose d'important. Le Fils de l'homme est Seigneur ou Maître du sabbat. Ça veut dire que Jésus est finalement au-dessus du sabbat. Il est plus important, sa parole est plus importante. Ce qui voudra dire que si Jésus nous invite à annoncer l'évangile le dimanche, même si c'est considéré comme un travail, eh bien on va le faire. On pourrait dire sinon les pasteurs, ben, ils ne devraient pas prêcher le dimanche, ils devraient se reposer. C'est pour ça que Jésus va guérir le dimanche parce que c'est un appel à délivrer. Le sabbat, c'est une question de délivrance. Et s'il y a quelqu'un qui est enchaîné à une maladie et que vous pouvez le délivrer, vous pouvez travailler le jour du sabbat. Si un médecin travaille le dimanche à un hôpital, selon ce verset-là, ça ne pose aucun problème. Et c'est plus fort que cela. Jésus, on le verra dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, c'est lui le sabbat, c'est lui le repos de Dieu. Jésus dira aussi en Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Car je suis doux et humble de cœur, mon fardeau est doux et mon joug est doux et mon fardeau léger. » Jésus est en train de dire finalement qu'auprès de lui, il y a le repos. C'est pour ça qu'il dit « Je suis maître du sabbat ». Ça n'annule pas le sabbat, mais ça rappelle que Jésus est plus important. Ce n'est pas sabbat d'abord et Jésus après, c'est Jésus d'abord. Ensuite, nous avons le chapitre 3. Alors dans le chapitre 3, je vais demander à Claude de prendre les versets 13 à 15 et à Sandrine de prendre le verset 35. Au verset 1 à 6, alors dans le chapitre 3, on voit que Jésus invite à une nouvelle notion de famille. D'abord, ça va être les versets 1 à 6 qui parlent d'un homme à la main sèche. Comment Jésus va le guérir le jour du sabbat, justifiant ce qu'il vient juste de dire. Que finalement, il est maître du sabbat et que le sabbat, c'est une question de délivrer l'homme de ses enchaînements, de son esclavage, si c'est le péché, si c'est les démons, si c'est la maladie et qu'on peut les délivrer, on a à le faire même le jour du sabbat. Ensuite, Au verset 7 à 12, une foule va venir près de lui. Et c'est là que Jésus va utiliser une technique. Il a un problème. La foule arrive et est tellement nombreuse qu'il saute sur lui et qu'il l'empêche de pouvoir faire son ministère. De telle sorte que Jésus va trouver une méthode. Il va dire à ses disciples, amenez un petit bateau. Il va monter dans le bateau et s'éloigner juste de quelques mètres. Comme ça, les gens, il y en a beaucoup moins qui veulent venir près de lui barboter et risquer de se noyer. Ils vont rester sur la plage. En plus, au niveau technique, au niveau acoustique, la mer renvoie le son, donc il pouvait enseigner et sa voix portait davantage depuis ce petit bateau. Donc il évitait que le contact soit trop grand avec des gens qui essayaient de le toucher de tous les côtés pour être guéri et qu'il ne puisse plus enseigner, parce que le but de Jésus n'était pas d'abord de guérir. Son premier but, c'était enseigner. Souligner son enseignement par des miracles, mais d'abord d'enseigner. Et à travers cette technique, avec ce petit bateau, il va pouvoir enseigner à nouveau, malgré les foules. Ensuite, au verset 13 à 19, il va choisir les 12. Et on va voir pour quel but il les choisit. Claude, est-ce que tu peux nous lire les versets 13 à 15 ?
Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui, et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons.
Merci. Il les appela, ne manquez pas ce morceau, je crois que c'est le verset 14, il les appela pour être avec lui. Il les appela pour être avec lui. Le premier but de Jésus avec ses disciples, c'est qu'ils voient comment Jésus fait, qu'ils puissent apprendre par l'exemple, qu'ils puissent apprendre à travers son exemple, avant qu'ils fassent d'autres choses, parce que des fois, on se dit, moi j'ai envie d'aller prêcher, ok, je t'envoie prêcher. Non, Jésus leur dit, venez regardez comment je fais. Discutons ensemble, vivons ensemble, et vous allez voir comment je fais pour que vous puissiez faire pareil ensuite. C'est très important. Ensuite, il leur donnera de fait pouvoir de guérir et de chasser les démons. Mais d'abord, c'est pour prêcher qu'ils seront envoyés. Et ensuite, on a la liste des 12 apôtres. Versets 20 et 21, la parenté de Jésus, quand ils apprennent que Jésus a tellement de monde autour de lui dans la maison qu'il ne peut pas manger, ils se disent il a perdu la tête. Notre petit Jésus, notre petit-fils, une maman, quand elle voit son enfant, même s'il a 30 ans, c'est toujours son enfant. Hein, c'est comme ça, ne vous soyez pas surpris. Une maman a connu son enfant depuis tout petit, c'est très difficile pour une mère d'accepter que l'enfant est devenu adulte. Ça se fait progressivement, mais la maman de Jésus, elle a encore un peu de mal, et elle se dit, mon fiston a perdu la tête, on va le ramener chez nous, ramener à la maison. Et il y a des scribes qui sont descendus de Jérusalem pour voir ce qui se passait autour de ce Jésus. Et quand ils entendent ça, ils disent c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Et Jésus va leur expliquer, écoutez, ça ne tient pas la route, votre histoire. Si je chasse des démons par le prince des démons, alors Satan est divisé contre lui-même. Il fait une œuvre qui est destructrice. D'un côté, il fait un truc et de l'autre côté, il fait l'inverse. Si une maison n'est pas unie, alors elle va tomber. Si un royaume n'est pas uni, alors il va tomber. Et ensuite, il va dire, l'homme fort doit d'abord, on doit d'abord lier l'homme fort, celui qui est en possession. En fait, Jésus parle de lui, qui doit lier Satan pour délivrer ceux qui sont sous son pouvoir et les libérer. C'est ce que Jésus fait. Par sa parole, il emprisonne Satan, qui n'a aucun pouvoir sur lui, parce que Jésus n'a fait aucun péché. Il peut le contraindre à partir. Et ensuite, les personnes sont libérées. Après, il dira, faites attention, ne dites pas de péché contre l'Esprit Saint. Parce que quand ils disent, il chasse par un esprit impur, en fait, Jésus chassait par quel esprit ? Il chassait les démons par quel esprit ? L'Esprit de son Père, l'Esprit Saint. Donc, ils étaient en train d'associer l'Esprit Saint et l'Esprit de Satan. Et ça, c'est une abomination pour Dieu. C'est un péché très grave. C'est remplacer la vérité par le mensonge, la lumière par la ténèbre. Et juste après, on lui dit, ta mère et tes frères sont dehors. Et Jésus va leur poser la question, qui sont ma mère et mes frères ? Et à la fin de ce texte, au verset 35, il va nous dire, est-ce que Sandrine, tu pourrais nous lire le verset 35 ?
Voici ma mère et mes frères, car celui qui fait la volonté de Dieu... Celui-là est pour moi un frère, une sœur ou une mère.
Merci. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi une mère, un frère ou une sœur. Il ne dit pas un père, hein, parce qu'il n'a qu'un seul père. celui qui est dans les cieux. La famille chrétienne est basée sur l'obéissance à la volonté de Dieu. Elle n'est pas basée sur une technique, elle n'est pas basée sur des paroles dans le passé, elle est basée sur l'obéissance à la volonté de Dieu. Est-ce que c'est une obéissance dans le passé? Il a dit, celui qui est mon frère, ma mère, ma sœur, c'est celui qui a fait la volonté de Dieu dans le passé? Non, c'est celui qui l'a fait maintenant. Et ça reprend l'enseignement d'Ézéchiel qui dit, même si quelqu'un était juste et qu'il tombe dans le péché, il sera condamné. Et si quelqu'un était pécheur et qu'il accueille et qu'il devient juste, il sera sauvé. C'est ce qui se passera par exemple avec le voleur sur la croix, qui a péché toute sa vie, qui a été voleur, mais sur la croix il se repent, demande à Jésus d'avoir pitié de lui et Jésus aura pitié de lui. Alors je vous dirais, n'attendez pas à être sur une croix en train de mourir à cause de vos péchés pour vous tourner vers Jésus. Il n'y a aucune raison d'attendre. Ça c'est le chapitre 3. Au chapitre 4, Jésus va enseigner par parabole. Les paraboles ont un but. Elles ont le but de pointer vers une réalité qui est au-delà de ce monde. Essayez de nous donner des éléments sur le royaume de Dieu. Et pour que on ne fasse pas de la parabole une idole, parce que quand vous donnez une histoire, des fois les gens vous disent « Ah, si le royaume de Dieu c'est comme un champ où on va semer, alors moi j'aimerais bien être dans telle zone de ce champ, et puis on va penser seulement avec cette image. » Rappelez-vous les images, il y en a toujours plusieurs pour vous aider à prendre conscience qu'elles pointent vers quelque chose de plus grand. Elles vous amènent à une relation, vers un mystère. Et le but des paraboles, c'est révéler le mystère du royaume de Dieu. Jésus va parler de la parabole du semeur. Comment est-ce qu'on va pouvoir avoir des gens qui entendent la parole de Dieu ? Ça entre par une oreille et ça sort par l'autre, on ne la met pas en application. Quand vous lisez la Bible, votre but n'est pas de lire et d'oublier, votre but est de lire, de méditer et de mettre en pratique. Ensuite, il y aura ceux qui sont semés parmi les pierres. C'est ceux qui se disent, c'est génial, je donne ma vie à Jésus tout de suite. Et puis après, il y a les soucis de ce monde qui viennent et ils vont s'enfuir. Il y a un troisième type qui était ceux qui étaient semés parmi les épines. Parmi les épines, c'est ceux qui ont entendu la parole, ont commencé à la suivre. Mais il y a des soucis, soit les soucis liés aux richesses, soit les soucis liés à la pauvreté. Les deux, vous avez le choix. Soit vous êtes du côté riche, soit du côté pauvre. Les soucis, il y en a autant d'un côté ou de l'autre. Quand vous avez beaucoup d'argent, beaucoup de soucis pour protéger votre argent. Quand vous avez peu d'argent, beaucoup de soucis pour savoir comment avoir assez. Et en général, on est entre les deux. Et c'est des risques de pouvoir finalement étouffer la parole de Dieu. Et ensuite, il y a la bonne terre qui reçoit la parole, qui la comprend et qui la met en pratique, portant 30, 60 et 100 fois pour une graine. Ensuite, nous aurons différentes paraboles, la parabole de la lampe, disant que nous sommes appelés à ne pas garder ce que nous avons reçu pour nous-mêmes, mais être comme une lampe qui brille et qui témoigne à d'autres. L'annonce de l'évangile n'est pas une option pour un chrétien, ça fait partie de son style de vie. Un chrétien est appelé à annoncer l'évangile. Ensuite, il va y avoir la parabole de la semence qui croit. Ça, c'est pour aider à comprendre ce qu'est la foi. La parabole de la semence qui croit, ça nous aide à comprendre que finalement, quand on a accueilli la parole de Dieu et qu'on est fidèle, cette parole va produire son fruit. D'abord la tige, ensuite il va y avoir les feuilles, l'épi, et tout va arriver progressivement, naturellement. Ce n'est pas nous qui produisons par nos forces le fruit de Dieu. C'est simplement d'obéir à ce que Dieu nous montre et progressivement Dieu va produire son fruit. Ça, c'est un des exemples les plus beaux sur ce qu'est la foi, une foi qui porte du fruit. Après, il y a la parabole du grain de sénévé, encore dans cette dimension de foi. Le grain de sénévé est tout petit, mais quand on le plante, il produit un grand arbre ou un grand arbre potager, si on peut dire. Pour dire, votre foi, la question n'est pas de savoir si vous êtes grand, c'est juste si vous la mettez en pratique. Si vous suivez Dieu dans ce qu'il vous enseigne. L'utilité des paraboles. Ensuite, on va finir par Jésus calme la tempête. Alors, j'avais donné les versets du chapitre 4 ?
Non.
Non, pas encore. Alors, Colline, tu pourrais nous prendre les versets 40 et 41 ?
Leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment vous avez-vous point de foi? Il ferait saisir une grande frayeur et il se dirait les uns pour les autres. Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer?
Merci. C'est juste après qu'il ait calmé la tempête. Et les disciples se rendent compte qu'avec Jésus, il y a quelque chose d'incroyable. Il a même autorité sur les éléments. Tout comme Élie avait pu arrêter la pluie pendant 3 ans et faire tomber la pluie, là, ils sont en train de prendre conscience qu'il y a quelque chose d'incroyable avec Jésus. Ils sont en train de voir que Jésus est plus qu'un homme. Ils sont en train de se préparer à accueillir le fait que Jésus est le Fils de Dieu. Ensuite, nous arrivons au chapitre 5. Le chapitre 5, finalement, c'est des exemples concrets par des histoires comment Jésus purifie. Comment Jésus purifie d'abord d'un démon, ou d'un ensemble de démons plutôt. Ensuite, comment Jésus purifie une femme considérée impure avec un écoulement de sang. Et à la fin, c'est comment Jésus purifie de ce qui était considéré comme le plus impur dans ce monde, le monde juif de l'époque. Ce qui est dans l'échelle d'impureté le plus élevé. Vous savez ce que c'est dans le monde juif? Un mort. Quand vous touchez un mort, vous êtes impur, je crois, pour 7 jours. C'était considéré comme le degré le plus élevé d'impureté. Un prêtre était censé ne jamais toucher des morts. Et là, Jésus non seulement va toucher la main, mais va chasser la mort et ramener la fillette à la vie. Donc au début, il va avoir un homme démoniaque possédé. Le but des démons, c'est au début du chapitre 5, il est très simple. Leur but, c'est de détruire, autant qu'ils peuvent. Ils essayent de détruire cet homme, mais ils n'y arrivent pas complètement. Ils n'ont pas encore complètement asservi la volonté de l'homme. Ils arrivent à lui faire qu'il se coupe avec des pierres. Ils arrivent à faire qu'il aille dans les tombeaux pour le préparer à mourir. Mais ils n'ont pas réussi encore à le mettre à mort. Parce qu'il y a un bout de volonté de cet homme qui reste, qui se débat. Et c'est pour ça qu'il y a ces tiraillements, ces cris chez cet homme dans les montagnes. Quand Jésus vient pour chasser ses démons, d'abord ils disent « nous sommes légions », ça veut dire « on est nombreux ». Une légion au temps des Romains, c'était à peu près combien d'hommes, Colline? Une légion.
Six
mille hommes. 6-7 000 suivant les évaluations, donc ça veut dire qu'ils étaient très nombreux. Et ils vont dire « laisse-nous partir dans les ports ». C'est l'histoire que les petits-enfants à l'école du dimanche ont aujourd'hui. Et Jésus va leur permettre. Il va le permettre pour une raison pédagogique, pour montrer très clairement quel est le but des démons. Les démons, ils disent « on ne peut pas rester dehors, on a besoin d'être dans un corps ». Comme s'ils étaient bien au chaud et qu'ensuite ils embêtaient personne. La réalité est différente. Quand ils entrent dans les ports, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont faire tout de suite ce qu'ils ont envie parce que les ports ont une volonté plus faible. Ils vont faire quoi? Ils vont tous les précipiter vers la mer pour qu'ils se noient. Ah, ils sont contents. Là, ils ont pu faire leur but jusqu'au bout, détruire cette création qu'ils haïssent. Et le but des démons, si vous voulez vous rappeler une chose, leur but, c'est de détruire. Très simplement. Et Jésus le sait. Mais là, il donne un exemple très concret. Parce que la volonté d'un être humain est difficile à maîtriser complètement. La volonté d'animaux est plus facile. Donc, ils vont pouvoir les détruire tout de suite. Après, Jésus, quand il part, les gens d'abord lui demandent de partir parce qu'ils ne voient pas l'homme qui a été guéri. Ils voient d'abord tous ces démons, tous ces porcs qui sont morts. Ils se disent quoi? Ils se disent « Oh là là, ce gars est venu et il a tué tous ces porcs. S'il reste, tous nos troupeaux, ils vont y passer. » Donc ils ont peur de perdre leur argent. Et ils lui disent « S'il te plaît, pars d'ici tout de suite. » Et ensuite, le démoniaque guéri lui dit « Jésus, je t'en prie, laisse-moi venir avec toi. » Chose surprenante, Jésus lui dit « Non, tu ne viendras pas avec moi, tu vas annoncer ce que Dieu a fait pour toi dans la ville. » On pourrait se dire « Mais pourquoi ?» Ce qui se passe, c'est que les gens de la ville n'ont vu que l'aspect négatif de l'œuvre de Jésus. Ils ont vu les ports qui ont été détruits. En ayant l'homme qui part avec Jésus, il ne se rappellerait que des ports. Mais en ayant l'homme qui va témoigner dans cette ville, les gens vont réfléchir, ils vont commencer à se dire « C'est incroyable ce qui s'est passé. » Et en cette raison, c'est la région de la Décapolis, après la résurrection de Jésus. Quand les disciples sont envoyés en mission, c'est une des premières régions qui va devenir chrétienne en masse. Parce que cet homme démoniaque a commencé à annoncer la parole de Dieu, toute la région ensuite, à la prédication des apôtres, des diacres et de tous ceux qui vont devenir chrétiens va se convertir en masse. La Décapole, oui, ça s'appelait la Décapole, les dix villes, c'était le lieu des dix villes sur l'est du lac de Galilée. Donc stratégiquement, c'était un très bon choix de Jésus, ça a permis que toute une région puisse accueillir Jésus comme son Seigneur, au lieu d'avoir juste un, même si on ne comprend pas à première vue. Ensuite, on a Jésus qui va partir guérir la fille de Jaïr. Jaïr, il a une petite fille qui est très aimée, c'est sa chouchou, son chouchou, il l'aime tellement qu'il va, en tant que chef de synagogue, s'humilier devant Jésus. Lui, un responsable, va se mettre à genoux devant Jésus et lui dire « S'il te plaît, viens prier pour ma fille, je sais que tu peux guérir, elle est au point de mourir. » Jésus lui dit « Ok, je vais venir avec toi. » Il vient, mais en chemin, il va s'arrêter pour une femme méprisable, une femme qui n'a pas de père qui prend soin de lui, une femme qui a été malade pendant 12 ans, qui a donné sa fortune, sa richesse, tout ce qu'elle avait, si vous voulez, aux médecins qui n'ont pas pu la guérir, parce qu'elle a un écoulement de sang et que finalement ça l'empêche de tout faire. Un écoulement de sang dans la foi juive vous rend impur. S'il continue, vous ne pouvez pas être en contact avec les autres. Vous ne pouvez pas aller acheter de nourriture. Vous ne pouvez pas aller manger chez quelqu'un. Vous êtes considéré comme des parias. Et cette femme est désespérée. Mais quand elle voit Jésus, elle ose faire l'impensable. Elle, qui n'a pas le droit de toucher qui que ce soit, parce qu'elle rendrait la personne impure, va toucher la robe de Jésus. Avec la foi, elle se dit, si seulement, je mérite pas moi de demander à Jésus de s'arrêter, mais si seulement je touche sa robe, je crois que je vais être guérie. Et elle touche la robe, et elle est guérie. Ensuite, Jésus va se retourner, va dire, qui m'a touché ? Les disciples lui disent, attends, tu es pas sérieux Jésus ? Il y a tout ce monde qui te presse de tous les côtés, et tu demandes qui m'a touché ? Et Jésus va continuer, non, qui est-ce qui m'a touché ? Parce que Jésus, il n'est pas un faiseur de miracles, il est une personne de la relation. Il veut une relation, et tout miracle est une invitation à la relation avec Dieu. Et donc il va chercher. Et ensuite, versets 32 à 34, il va voir la personne qui l'a guéri. D'abord, cette femme va s'humilier, va vraiment dire, c'est moi qui ai fait ça. Et elle a honte, et elle sait qu'elle est impure. Donc elle sait qu'elle ne devrait pas faire ça, elle sait qu'il peut la corriger, la punir, la renvoyer avec dureté, mais elle dit « oui, c'est moi qui ai touché ». Et le verset 34 est très important. À qui est-ce que j'ai demandé de lire le verset 34 ? À personne ? Est-ce que Claude, tu pourrais nous lire ?
Chapitre
5.
Comme il parlait encore, se vint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte. »
Non, verset 34, ça doit être 35. Ouais.
Mais Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. »
Merci. Plusieurs choses importantes. Quels sont les premiers mots, les deux premiers mots ? Ma fille, elle n'a plus de papa qui prend soin d'elle. Lui, lui dit, je suis comme un père pour toi. Ça vous rappelle quelqu'un qui l'a dit ça ? Il l'a dit à qui ? Il a dit mon fils à quelqu'un d'autre. Celui qui était paralytique. Le paralytique. Mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Et parce que Jésus sait que la plus grande maladie dans ce monde, c'est le péché, et pas d'être paralytique. Et Jésus, là, va lui dire d'abord ma fille, en lui disant, tu as un père, et à travers lui, c'est le Père Céleste, pour la rassurer, pour lui dire, tu n'es pas méprisé, tu vas être honoré. Ta foi t'a sauvé. Il souligne le fait que c'est sa confiance en Dieu qu'elle a mis en touchant la robe de Jésus qui était importante, que c'était le canal que Dieu a utilisé pour la guérir. Et souvent, Jésus va souligner le fait que c'est la foi. Et vous allez voir, quand les gens n'ont pas la foi, il y a peu de guérison. Parce que c'est par la foi que Dieu travaille dans nos vies. Si on a peu de foi, on a peu des fruits de Dieu. Ensuite, il va aller voir la petite fille, mais c'est trop tard. La petite fille est morte. Jésus lui dit, ne vous inquiétez pas. Il emmène juste quelques disciples avec lui, le père et la mère. Il vient près de la fille et il fait l'impensable. Lui est un rabbi, celui qui enseigne la pureté, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va toucher la main de cette fillette morte. D'abord, il a été en contact avec un homme démoniaque, ensuite une femme impure avec un écoulement de sang l'a touché, mais c'est lui dont la pureté s'est communiquée à l'autre. C'est pas l'impureté de l'autre qui l'a transformée. De même là, quand il va la toucher, il va lui dire Talita Kumi, ça veut dire petite fille, lève-toi, en araméen. Et elle va se lever et va être guérie. Et Jésus va leur dire, ne parlez pas tout de suite, gardez cela pour que lui puisse partir sans qu'il y ait une foule qui l'entoure et qu'il ne puisse plus bouger et enseigner. Après ces deux miracles incroyables et profonds et importants, qui montrent que Jésus est capable de purifier de tout, purifier des démons, purifier de maladies qui rendent impures, purifier de la mort. On va voir le chapitre 6. Alors, chapitre 1 à 5, rappelez-moi, c'était quoi déjà ? Après les chapitres 6 à 10, c'est quoi ? D'accord. Vous rappelez déjà les chapitres 11 à 13, ce que ce sera ? Et après, 14 à 16 ? Voilà. Impeccable. Alors, on va voir au chapitre 6 le début du ministère des apôtres. Jésus va commencer à non seulement montrer aux apôtres quoi faire, mais va les envoyer en mission. Et ils vont commencer à mettre en pratique, à apprendre, par l'application de ce que Jésus enseigne. D'abord, au verset 1 à 6, Jésus va aller à Nazareth. Et à Nazareth, les gens ne vont pas bien l'accueillir. Ils vont lui dire, c'est qui celui-là ? Qui se prend pour un super rabbi qui fait des miracles. Nous, on le connaît, c'est le fils de Joseph, dont les frères sont Jacques, Jude, Simon. Nous, on les connaît, ces fils. C'est pas possible. Et c'est vrai que quand vous changez, vous avez peut-être expérimenté la chose. Quand vous avez évolué et que vous revenez auprès de ceux qui vous ont connu plus jeune, ils vont avoir du mal à croire que vous avez changé. Jésus a tellement changé comme image de ce fils obéissant qu'il avait été jusqu'à 30 ans, que les gens de sa famille et de son village auront beaucoup de mal à le croire. Et dans la famille de Jésus, on sait par les traditions que probablement personne de sa famille est devenu croyant en Jésus avant sa mort. Excepté sa mère, on pense qu'il a cru en lui. Mais tous ses frères et sœurs, c'est après. C'est après qu'ils sont venus à lui. Alors, on va avoir deux versets à lire. Je vais demander à Laurence de lire chapitre 6, verset 4. Et Anton, ensuite, tu suivras avec le chapitre 6, verset 7.
Parmi ses parents et dans sa maison.
Merci. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Jésus, finalement, il est en train de dire, oui, ma famille n'accepte pas mon ministère et ça fait partie des réalités à accepter. Ce n'est pas parce que vous apportez la parole de Dieu que tout le monde va l'accepter. Et il ne put faire que très peu de miracles ici, à part imposer les mains à quelques personnes malades. Et ensuite, il est parti au verset 6 enseigner à des gens tout autour. Mais versets 7 à 12, Jésus va commencer à envoyer ses disciples, ses apôtres, en mission. Anton, est-ce que tu pourrais lire le verset 7 ?
Alors, il appela les 12 et commença à les envoyer deux à deux en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs.
Merci. Les envoyer avec pouvoir de chasser les démons finalement, et ils vont même guérir. Leur but va être de prêcher la parole, inviter à la repentance, guérir en priant ou en oignant d'huile suivant les différents évangiles, imposer les mains, pardon, pas oindre d'huile, c'est dans Jacques, en imposant les mains ou bien de chasser les démons. Et les disciples vont y aller, il va juste leur dire, ne preniez rien avec vous, ayez confiance, Dieu prendra soin de vous sur votre chemin, ne prenez pas ça un sac, ne prenez pas de l'argent sur vous, tout va se passer à travers votre foi, votre confiance. Ensuite, alors que les disciples ont fait des choses extraordinaires, à travers le ministère des disciples, la renommée de Jésus se répand encore plus. Elle se répand auprès de quelqu'un qui n'est pas vraiment quelqu'un de pieux, c'est Hérode. Hérode qui a fait décapiter Jean le Baptiste. Et quand il entend ça, il est tellement coupable d'avoir décapité Jean le Baptiste que Hérode, il doit avoir des mauvais rêves toute la nuit. Souvent, il doit avoir des cauchemars où il se revoit en train de décapiter Jean. Et il se dit quoi ? C'est mes cauchemars qui deviennent réalité. Jean le Baptiste est ressuscité et il se sent condamné à travers ça. Ce sera les versets 14 à 16. Ensuite, on connaît l'histoire de la fin de Jean le Baptiste. Comment Hérode a promis quand la fille de la femme qu'il a pris à son frère. Son frère Philippe était marié avec Hérodias. Il lui a volé sa femme, un adultère flagrant que tout le monde connaissait. Et Jean le Baptiste lui disait, tu n'as pas le droit de faire ça. C'est pour ça qu'il va être enfermé en prison. Et la fille d'Hérodiade va danser. Et Jean le Baptiste va trouver que c'est tellement séduisant ce qu'elle fait. Vous vous rendez compte? Non seulement il a volé la femme de son frère. Hérode. Non seulement Hérode a volé la femme de son frère, son frère Philippe. Mais en plus, quand la fille de cette femme danse, de manière probablement très suggestive, il répond comme si c'était une femme ou une concubine à lui. Vraiment le péché au niveau complet. Et il lui dit, je te donnerai jusqu'à la moitié de mon royaume, demande ce que tu veux. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle va demander, donne-moi la tête de Jean le Baptiste. Ça c'est sa mère, parce qu'elle va aller voir maman, elle lui dit, maman, qu'est-ce que je dois faire? Demande-lui la tête de Jean le Baptiste. La petite, que la tradition appelle Salomé, elle se dit, d'accord, je vais demander ce que maman dit, mais je vais le demander à ma façon pour montrer que j'ai du pouvoir sur Hérode. Elle va rajouter deux éléments. Donne-moi la tête de Jean le Baptiste. Tout de suite, et sur un plateau. L'horreur de l'horreur, elle s'en fiche de Jean-Baptiste. Ce qu'elle veut, c'est prouver qu'elle a du pouvoir face à Hérode. Qu'elle est soumise à sa maman, mais qu'elle a du pouvoir. C'est elle qui a demandé sur un plateau. Sa maman, c'était la tête. Elle a rajouté le tout de suite et sur un plateau. Et Hérode, parce qu'il craint les hommes plus que Dieu, il va craindre que ce qu'il a promis, finalement, s'il ne le fait pas, on va considérer que sa parole n'est pas forte. Qu'il n'a pas beaucoup d'autorité. Et donc, il va respecter sa parole et va faire décapiter Jean. Et ensuite, les disciples de Jean vont prendre sa tête. Et juste après, on revient à l'histoire des disciples qui étaient en mission, qui reviennent vers Jésus. Et quand ils reviennent vers Jésus, ils sont fatigués. Ils n'ont pas mangé, ils sont épuisés. Jésus leur dit, venez, on va prendre un temps de repos, on va faire un bon repas ensemble, parce qu'ils ont faim. Qu'est-ce qui se passe? Au moment où ils partent pour faire ce voyage, les gens ont vu que tous les disciples et Jésus sont partis sur un bateau. Ils courent sur la plage et rattrapent le bateau de Jésus là où il va aller. Les disciples, est-ce qu'ils ont bien mangé? Ils ont faim. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Jésus va avoir pitié des gens qui sont venus et va les enseigner. Quand Jésus a pitié des gens, il sait que ce dont ils ont besoin d'abord, c'est d'un bon enseignement. Il va commencer à les enseigner et en même temps qu'il les enseigne, à la fin de la journée, les disciples disent « Jésus, renvoie-les, ils ont faim. Ils ont faim et ils vont avoir des problèmes. » Qui c'est qui a faim? C'est eux qui ont faim, c'est pas les autres. Et Jésus continue à former ses disciples. Ils ont amené avec eux sur le bateau 5 pains et 2 poissons. Ça aurait été suffisant pour un petit repas pour les 12. Ça aurait été bien qu'on renvoie tout le monde, et puis qu'après les disciples puissent manger les 5 pains et 2 poissons. Mais Jésus va les surprendre, il va leur dire, vous donnez-leur à manger. Ils disent, comment on pourrait donner à manger, même si on avait... Salut Thierry, bienvenue. Tiens Thierry, je vais te donner une feuille. Voilà, et un petit texte. Un petit graphique, voilà. Et en même temps que finalement... Jésus leur parle, il est en train de les challenger. Jésus, quand il enseigne ses disciples, il n'hésite pas à finalement aller au droit du sujet. Il sait qu'ils ont faim, il sait qu'ils ont envie que leur ministère s'arrête, qu'ils aient un petit temps pour eux. Mais il sait qu'il y a quelque chose de plus important en jeu ici. Donc il leur dit donner à manger, ils disent on ne peut pas. Ensuite, il va faire participer pour la première fois les disciples à son miracle. Ça va être un disciple entre Jésus et les apôtres. Il va utiliser leur foi pour qu'ils grandissent. Il va leur dire, d'accord, vous dites que vous ne pouvez pas. Qu'est-ce que vous avez? Ah, qu'est-ce qu'on a? Parce que quand on a quelque chose, on peut toujours le donner. Même si ce n'est pas beaucoup, on peut donner ce qu'on a. Ils disent, bon, on a 5 pains et 2 poissons. Il leur dit, donnez-les-moi. On va remercier Dieu et puis on va les partager. Les disciples, là, ils commencent à se dire, qu'est-ce qui se passe? Jésus bénit, prie, en remerciant son Père au ciel, et leur dit, vous distribuez maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Ça va être la foi de Jésus à l'œuvre et la foi des disciples qui vont avoir confiance que Jésus est vraiment capable de prendre soin des gens. Et là, Jésus leur fait les fait participer directement à sa foi, les fait entrer dans un ministère où, même quand ça semble impossible, Dieu peut faire quelque chose. Et les 5000 vont être rassasiés tellement qu'il va y avoir même des restes pour remplir 12 corbeilles. Donc vous voyez comment Jésus intègre ses disciples dans le ministère ? Comment il y a un aspect humoristique, là où ses disciples sont affamés, lui il leur dit, et qu'ils disent « Oh, c'est les autres qui ont faim, vas-y, renvoie-les. » Et Jésus a utilisé cela pour un enseignement et pour un de ses plus profonds miracles, parce qu'on voit que Jésus nourrit. Et c'est un des miracles que dans l'évangile de Jean, Jésus utilisera, on a des paroles qu'on n'a pas ici, où Jésus montre que finalement c'est lui le pain de Dieu, que lui nourrit, que l'homme ne se nourrit pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de Dieu, et que Jésus, on est appelé à se nourrir de Jésus, de ses enseignements, et à travers l'Eucharistie, à travers la Sainte Cène, à travers la communion, nous sommes appelés à vivre la puissance de Jésus en nous par la foi. Et ensuite, Jésus va faire encore un autre miracle. Il va envoyer ses disciples, rester à renvoyer les gens et puis prier. Et il va marcher sur les eaux. Les disciples vont être effrayés. Il va leur dire, ne vous inquiétez pas, c'est moi. Va monter dans le bateau et les disciples seront étonnés. Se demanderont, qui c'est celui-là ? Et le chapitre finit par la guérison des malades à Génézareth. Nous sommes dans quelle partie là ? Deuxième, c'est quoi le titre ? Ce n'est pas le ministère des apôtres, mais le ministère avec les apôtres. D'abord, Jésus fait son ministère seul. Ensuite, il fait le ministère avec les apôtres. Et plus tard, les apôtres feront leur ministère avec l'Esprit-Saint. Ça sera les actes des apôtres. Et là, l'Esprit-Saint sera celui qui rappellera les paroles de Jésus. On ne fait jamais un ministère seul. Jésus faisait son ministère avec qui, lui ? Avec l'Esprit-Saint et avec son Père. De même, nous, nous ne pouvons pas avoir de ministère sans l'Esprit-Saint en nous, qui travaille en nous. On va continuer. Aujourd'hui, on ira seulement jusqu'au chapitre 10. Donc, on a fait la bonne moitié. On va finir jusqu'au chapitre 10. Et la semaine prochaine, on finira cet évangile qui est à la fois très simple et très profond. Au chapitre 7, nous avons un enseignement sur la pureté. D'abord, il va y avoir... Alors, je vais donner deux versets... Alors, Dominique, tu vas te préparer à lire le verset 15. Alexandre, les versets 27 et 28. D'abord, les pharisiens vont voir, ou les scribes, vont voir que les disciples ne se lavent pas les mains avant de manger. Est-ce que c'est bien de se laver les mains avant de manger, à votre avis ? Ouais. Pourtant, Jésus, il a dit, c'est pas grave si on se lave pas les mains. Il a dit, c'est pas grave pour une raison. Parce que dans le judaïsme de l'époque, on avait créé un ensemble de règles qui ne faisaient pas partie de la parole de Dieu. Et on avait dit, c'est ce que dans le judaïsme on avait appelé la haie autour de la Torah. Il y avait la Torah, l'enseignement de Dieu. On s'est dit, si on enfreint, si on ne fait pas un enseignement de Dieu, c'est très grave. Donc on va mettre plein de lois autour. Comme ça, avec toutes ces lois, si les gens ne font pas une de ces lois, bon, on les corrige, on les punit, mais ils n'ont pas enfreint la loi de Dieu. C'est bien ça ! Ils sont en train de mettre une haie pour protéger finalement qu'on se brûle. Mais ils ont oublié une chose. À qui on obéit maintenant si on obéit à la haie, aux tous les commandements mis tout autour, rajoutés qui ne sont pas de Dieu ? On obéit aux hommes, aux traditions des hommes, et on n'obéit plus à Dieu. Dieu n'a pas considéré nécessaire de rajouter tout ça. C'est les hommes, avec leur piété religieuse naïve, qui ont la tentation de rajouter des règles. Et on doit être très, très attentif à n'en pas rajouter un grand nombre. Des fois, dans toute église, ne soyons pas naïfs. Il y a un minimum de règles qu'on doit mettre en place pour l'harmonie dans la communauté et des règles qui sont acceptées par la communauté. Mais il ne faut pas que ça soit de tous les côtés. Il ne faut pas que ça soit comment on va ouvrir une porte, comment on va aller aux toilettes, comment on va s'habiller, comment, etc. Et Jésus va enseigner, d'abord va dire aux pharisiens, vous avez rejeté la parole de Dieu et vous avez fait que non seulement les gens se soumettent à vous, mais s'opposent à Dieu. Il leur donne un exemple, comment il est dit dans la parole, tu honoreras ton père et ta mère, au verset 10 à 12. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'eux avaient dit, si tu veux faire un don, tu peux le faire ton don au temple, tu diras c'est corban, et puis plus tard, si c'est par exemple un don d'un chant, tu peux le reprendre plus tard. Et si tu fais ce don, on considère que tu n'as plus besoin de faire un don à tes parents. C'est comme, c'est l'équivalent. Donc, qu'est-ce qui se passait pour les parents?
Ils n'avaient plus rien.
Ils n'avaient plus rien. Et dans l'ancien temps, la sécurité sociale, l'assurance vieillesse, c'était qui la donnait?
Dieu.
C'était Dieu à travers les enfants. Les enfants avaient comme responsabilité de prendre soin des vieux parents. Et à travers ces règles, il leur disait, vous empêchez les gens de faire la volonté de Dieu par vos lois. Il montre comment, finalement, quand vous avez des traditions comme ça, si nombreuses et si détaillées, qui ne sont pas dans la Bible, vous arrivez à un choc et une contradiction. Et après, il va rappeler le point clé de ce qu'est la vraie pureté, au verset 15. Dominique, tu pourrais nous lire ?
Alors, verset 15. Il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille.
Merci. La préoccupation des pharisiens, c'était ne rien faire entrer en soi qui n'était pas complètement pur. Jésus prépare déjà son peuple, même à manger des viandes qui sont considérées impures. Ça sera dans le livre des Actes, avec Pierre, à qui Dieu dira « Prends et mange, tue et mange, des animaux impurs. » Et déjà, il leur explique la pureté que Dieu veut, c'est avant tout une pureté de cœur, une pureté intérieure, dans laquelle il n'y a pas d'amertume, de jugement, de méchanceté. Parce que quand il y a cela dans notre cœur, ça va porter du fruit, des fruits mauvais. Et Jésus nous rappelle, c'est la pureté de cœur à laquelle il est appelé, et que chacun d'entre nous est appelé. Est-ce que cette pureté de cœur va entraîner des actions pures? Oui. Mais si nos actions sont pures apparemment, mais que les motivations ne sont pas pures à l'intérieur, ça ne portera pas du bon fruit sur le long terme. Vous pouvez être généreux avec quelqu'un pour abuser de la personne. C'est possible. Ensuite, il va y avoir une autre histoire. Là, c'est une histoire sur la pureté, cette pureté qui vient du cœur. Une autre question sur la pureté, ça va être avec une femme syrophénicienne, non juive. Et normalement, on n'a pas de contact avec eux. Est-ce que, Alexandre, tu pourrais nous lire les versets 27 et 28 ? Ensuite, Jésus va lui dire, va, je crois que c'est ma fille d'ailleurs, est-ce que tu peux nous lire le verset suivant?
Alors il lui dit, à cause de cette parole, tu peux t'en aller, le démon est sorti de ta fille.
Merci Alexandre, à cause de cette parole, tu peux t'en aller. Dans un autre évangile, il lui dit, ta foi, c'est par ta foi que le démon va partir. Ta foi t'a sauvé, je crois. Finalement, ce qui est en jeu, c'est que cette femme n'est pas orgueilleuse. Jésus lui dit quelque chose de très choquant. Il lui dit, en gros, toi t'es pire qu'un petit chien. Toi, finalement, moi je parle aux enfants de la table, le peuple juif, toi t'es pas juive, t'es comme un petit chien là. Et c'est une façon de provoquer la femme, de voir comment elle réagit. Et Jésus parfois va provoquer. Mais la femme va lui montrer qu'elle n'est pas là pour dire « Je suis aussi bien que les juifs, moi j'en ai marre de ces juifs. » Non, elle va lui dire, si tu as envie de me considérer comme un petit chien, je m'en fiche. Mais même un petit chien, il peut ramasser les miettes en dessous de la table. Si tu peux faire quelque chose, cette femme n'est pas centrée sur elle, elle est centrée sur sa fille. Elle ne se préoccupe pas d'elle en premier, mais de sa fille. Et Jésus va voir ça, va voir cette foi, et va guérir cette fille qui va être guérie du démon. Ensuite, il va guérir un sourd muet, au verset 31-37. Et on voit comment... Finalement, cette notion de pureté de Jésus se traduit non seulement dans le judaïsme, mais même auprès des gens non juifs. Et là, au passage de l'histoire de la femme syrophénicienne, c'est quand Jésus va commencer un ministère auprès des non juifs. Ça va continuer par la guérison d'un sourd muet, et quand Jésus va nourrir les 4000. On passe au chapitre 8, qui va être le dernier chapitre qu'on voit pour aujourd'hui. Alors, Juliette, tu vas te préparer à nous lire les versets 27 à 29. Et Pierre, tu liras le verset 34. Au chapitre 8, Jésus va faire un miracle similaire au premier, celui des 5000 pains. D'abord, il va enseigner, puis les gens, il va être tard. Et puis, qu'est-ce qu'ils vont faire les disciples? Ils vont lui dire, écoute Jésus, il est tard, renvoie. ils n'ont pas une très bonne mémoire des fois, les disciples. Ils ont oublié ce qui s'est passé avant. Il lui dit, envoie-les Jésus. Et Jésus, comme ce qu'il avait fait la fois précédente, il lui dit, vous donnez-leur à manger, qu'est-ce que vous avez avec vous? Alors ils diront qu'ils ont 7 pains et quelques petits poissons dans notre traduction. Et avec ces 7 pains, il va rendre grâce, va faire participer aux disciples à nouveau à ce miracle pour les intégrer dans le ministère, et il va nourrir les 4000. Le point clé, c'est que les 5000 dans le chapitre 6, c'était tous des juifs. Les 4000 dans cette histoire-là, c'est dans une région non juive. Donc Jésus est en train de montrer qu'il est là non seulement pour les juifs, mais pour les non-juifs aussi. Et les gens de l'époque de Jésus qui comprennent par histoire pouvaient comprendre parce qu'ils connaissaient les régions. Et donc comprendre que finalement Jésus est en train d'étendre son ministère à toutes les personnes. Ensuite, les pharisiens vont demander un signe. Alors Jésus, il a fait que ça, il a fait que des signes. Il a fait que de faire des signes, guérison, miracle, pain multiplié, personne ressuscitée. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Donne-nous un signe. Est-ce qu'ils n'ont pas vu? Est-ce qu'ils sont aveugles? Est-ce qu'ils sont tombés de la lune? Pourquoi ils demandent un signe à Jésus?
Pour pouvoir le commander peut-être, pour dire toi tu nous fais un signe.
Tout à fait, pour pouvoir commander Jésus, pour pouvoir dire Jésus fait des miracles selon notre volonté. Et les pharisiens finalement, c'est ceux qui se considèrent les autorités de la région au niveau spirituel, et ils voient d'un mauvais œil Jésus, ils se disent s'il se soumet à nous, ça va. Mais s'il fait des choses et qu'il n'entre pas dans notre façon de faire, alors ça n'ira pas. Et Jésus va leur dire quoi? Vous n'aurez pas d'autre signe que le signe de Jonas. Tout comme Jonas est resté 3 jours dans le ventre de la baleine, de même le Fils de l'homme, je crois, dit ressuscitera après 3 jours. Je ne sais plus s'il le dit précisément. On peut le lire d'ailleurs, ça doit être le verset 13. Est-ce que, Dominique, tu pourrais nous lire le verset 13?
Puis il les quitta et remonta dans la barque pour passer dans
la barque. Non. Chapitre 8, verset 13.
Chapitre 8?
Verset 13.
C'est ça?
Alors j'ai dû me tromper, excuse-moi. Verset 12 alors.
Verset 12.
Désolé.
Voilà. Jésus soupira profondément en son esprit, dit: pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Je vous le dis en vérité, il ne sera point donné de signe à cette génération. Par contre, il ne parle même pas dans cet évangile-là.
Il ne sera pas donné de signe à cette génération. Pardon, c'est dans un autre évangile, dans l'évangile de Matthieu, oui. Il va donner le signe de Jonas. Alors,
oui, Matthieu, oui, effectivement.
Oui. Ensuite, il va y avoir l'histoire du levain. Ils montent dans le bateau, ils n'ont pas pris de pain. Et Jésus leur dit, vous avez remarqué combien cette question de nourriture préoccupe beaucoup les disciples? Manger, c'est pas secondaire, hein. Manger, des fois, ça nous préoccupe tellement qu'on peut être focalisé là-dessus. Et quand Jésus va leur dire « faites attention au levain des pharisiens », c'est-à-dire à la levure, ce qui fait monter le pain, les disciples, ils se disent « oh, il doit nous parler des pains qu'on n'a pas pris, on ne comprend pas très bien ». Ensuite, il dit « non, c'est pas ça ». C'est dans l'évangile de Matthieu qu'il est expliqué plus clairement, au chapitre 15, versets 11 et 12, qu'en fait, Jésus parlait de l'enseignement des pharisiens. Parce que leur enseignement était comme du levain. C'est un enseignement qui finalement semblait bon, mais quand on l'intégrait, ça avait un impact sur toute notre vie. Et finalement, comme il n'était pas droit, il y avait des choses où c'était des lois humaines et non pas des lois de la parole de Dieu, elles pervertissaient la volonté de Dieu. Elles transformaient, on se soumettait non plus à Dieu, mais aux hommes. Et c'est là que Jésus mettait en garde ses disciples. Versets 22 à 26, c'est la seule fois que Jésus fait un miracle en 2 temps. C'est la seule fois dans les évangiles qu'il n'arrive pas à faire un miracle en une seule fois. Il y a un homme aveugle qui vient, au verset 22, au verset 23, Jésus va lui imposer les mains parce qu'il est aveugle, et après il lui dit « est-ce que ça va ?» Et l'homme, il dit « je vois les hommes comme des arbres bouger ». Ah zut, il va s'y reprendre une deuxième fois. Il va prier une deuxième fois. Ça prépare les disciples à la foi, et à être prêt à imposer 2 fois les mains si nécessaire. C'est ce qui va se passer dans le chapitre 9 que nous verrons la semaine prochaine avec la guérison d'un garçon possédé, où les disciples ne vont pas y arriver du tout. Mais la deuxième fois, il va être complètement libéré. Donc ne vous dites pas si quelqu'un n'est pas libéré qu'il faut arrêter de prier. On prie une fois et c'est fini. Parfois, il faut prier plusieurs fois. suivant ce qu'on perçoit dans la prière. Ensuite, les versets 27 jusqu'à 38, Jésus va prendre ses disciples à part et va leur révéler qui il est. Il n'a pas voulu leur parler de Messie parce qu'il se disait, si je leur dis tout de suite je suis le Messie, ils vont croire que je veux être roi, que si je suis roi, je vais renvoyer les Romains, et ils vont se préparer de faire une guerre au lieu de préparer leur cœur. Ils vont se préparer de pouvoir politique au lieu de se préparer à une soumission à Dieu et un renouvellement de leur cœur dans une attitude de repentance et de foi. Donc Jésus sait que c'est très sensible et il se dit, mes disciples sont prêts, maintenant je peux leur demander et valider s'ils ont reconnu pourquoi je suis venu. Est-ce que Juliette, tu pourrais nous lire les versets 27 à 29 ?
Jésus s'en alla accompagné de ses disciples et se rendit dans le village autour de Césarée de Philippe. En chemin, il interrogea ses disciples. Que disent les gens à mon sujet ? Que suis-je d'après eux ? Ils lui répondirent. Pour les uns, tu es Jean-Baptiste. Pour d'autres, Élie. Pour d'autres encore, l'un des prophètes. Alors il leur demanda, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Pierre lui répondit, « Tu es le Messie. »
Merci. Tu es le Messie. C'est la déclaration plus courte dans l'évangile de Matthieu. Matthieu, c'est un peu plus long, mais c'est le mot-clé. Tu es le Messie, le sauveur d'Israël, celui qui va venir délivrer Israël. Comment Pierre ne le comprend pas très bien. D'ailleurs, quand Jésus, au verset 31, lui dit « Le Fils de l'homme doit être humilié et mourir, mais après 3 jours, il ressuscitera », qu'est-ce qu'il va dire, Pierre ? Ça ne va pas t'arriver ? Non, il n'est pas question. Parce que Pierre, son image du Messie, c'est encore une image de roi. Est-ce qu'on tue un roi ? Comment est-ce qu'on pourrait tuer le roi qui doit normalement tuer et chasser les Romains ? C'est pas possible. Donc il lui dit, non, ça t'arrivera pas Jésus, on va t'aider, je vais être ton premier ministre, on va se battre avec toi, ils avaient une épée avec eux des fois, on va se battre, t'inquiète pas. Jésus lui dit quoi ? Arrière de moi Satan, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées des hommes. Et juste après, il va leur rappeler le point clé de ce que veut dire être disciple de Jésus-Christ. Est-ce que Pierre, tu peux nous lire le verset 34 ?
Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. »
Merci. Si quelqu'un veut venir après moi, ça veut dire être mon disciple, qu'il se renie lui-même. Ça veut dire se renier lui-même, ça veut dire finalement ne plus se mettre soi en premier, mais mettre Dieu en premier et le prochain en premier. Qu'il prenne sa croix, ça veut dire qu'il accepte qu'il y aura des souffrances, dans la mesure où il suit Dieu. Troisième point, qu'il me suive, et suivre Jésus, avancer avec Jésus. Et je dirais, le christianisme moderne a cette tentation, ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité. L'évangile de la prospérité, c'est quoi ? Si tu es vraiment fidèle, d'abord tu vas donner ta dîme et tu donnes même le double parce que Dieu a promis, si tu donnes tant d'argent, il te le rend au double. C'est un petit peu comme si tu voulais un investissement. Donc quand vous donnez votre dîme la prochaine fois, mais donnez plus que la dîme parce que vous allez voir, Dieu est bon, il va doubler.
Ça devient un jeu.
Ça devient un jeu, c'est plus une question de relation avec Dieu. La question de Dieu n'est pas une question de dîme d'abord, c'est une question d'amour, de soumission à Dieu et d'obéissance. C'est la première règle pour Dieu. Est-ce qu'il y a des questions pratiques ensuite ? Oui, mais d'abord c'est une question de se renier soi-même, de se mettre au service de Dieu et du prochain. Et ça, c'est le cœur de la foi chrétienne. Et Jésus le rappelle à Pierre qui voudrait une foi où finalement on écrase tous ses ennemis humains. Dieu ne vous promet jamais d'écraser tous les gens importants, puissants autour de vous. Il vous promet qu'il vous apportera sa paix, sa joie, qu'il vous guidera et qu'il vous gardera, qu'il vous donnera ce dont vous avez besoin et qu'il sera fidèle. Mais il ne vous promet pas que ça se passera facilement. Les 12 apôtres sont morts martyrs. Paul, il a eu un très grand ministère, mais il n'a jamais été quelqu'un qui a eu une vie facile. Il a été lapidé, il a été fouetté, il a été emprisonné. Combien de fois il a eu des naufrages ? Et il est mort à Rome. Mais sa vie est une des plus belles vies qu'on pouvait espérer. où il a vu la grâce de Dieu se répandre dans tellement de cœurs, tellement de vies transformées. Quelle joie pour Paul! Et pour nous, c'est la même chose. On est invité à vivre cet évangile, à voir comment Dieu transforme et comment Dieu bénit. On va s'arrêter ici aujourd'hui. Et le dernier verset, le verset 38, Jésus dit « Certains qui sont avec moi aujourd'hui ne mourront pas avant de voir la gloire de Dieu. » Et nous verrons la semaine prochaine qu'est-ce que c'est que cette gloire de Dieu. Alors j'aimerais que vous cachiez vos graphiques maintenant. On va vérifier si vous vous rappelez des quatre parties, bien sûr. Donc on joue à notre jeu comme d'habitude. À chaque personne à qui je pose une question, vous pouvez poser la question à votre voisin ensuite, et puis on tourne dans toute la salle, d'accord ? Alors, je vais commencer par Marie-Josée. Marie-Josée, c'est quoi ? On peut poser, dire la première, la deuxième, la troisième ou la quatrième partie. Marie-Josée, c'est quoi la deuxième partie de l'évangile de Marc ?
C'est le ministère avec les apôtres.
Très bien. Alors, tu vas poser la question à Frédéric.
Alors, Frédéric, bah, écoute, on commence comme commencement, les mots, la première partie,
le
ministère de Jésus-Christ.
Oui, commencement, oui, tout à fait. Oui, je crois que c'est... Attends, je vérifie. Début du ministère de Jésus. Pour le coup, j'étais plus sûr. Aïe, 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 là j'aurais eu... Frédéric, continue. C'est... Oui. À toi. Ne loupez personne sur le groupe, hein.
C'est Claude ?
Oui.
La troisième partie.
La troisième partie,
il
y en a quatre.
Oui.
Donc c'est Jésus à Jérusalem.
Oui, ministère à Jérusalem, très bien. Si vous vous rappelez des chapitres, dites-les. 1, 5, la première partie, 6 à 10, 11, 13, 14, 16, c'est pas grave, j'avais pas dit, mais les prochains, si vous vous rappelez, alors Thierry, tu n'es pas été là, on te donne un joker aujourd'hui ? D'accord, ça marche. Claude, à toi de poser, tu peux...
Alors, je sais pas.
Colline, par exemple, voilà.
Le chapitre 1.
La première partie.
Première partie.
Oui, la première partie, c'est le début de ministère de Jésus.
Très bien. Tu te rappelles des chapitres ? Chapitre 1 jusqu'à...
5.
Très bien. À toi ?
Dominique. Dans la troisième partie, il y a combien de chapitres ?
Dans la troisième partie, il y a trois chapitres. Donc
quel chapitre c'est ?
Donc c'est le chapitre 11, 12, 13.
Très bien. Et c'est...
Et c'est donc Jésus à Jérusalem.
Oui, ministère à Jérusalem, tout à fait. À toi, Dominique.
Alors, on revient à la pensée. Combien de parties pour le dernier ?
Trois chapitres, de 13 à 16.
14,
15, 16, ça fait 3. Ok. Laurence. Très bien, Anton. De mes fillettes, je vous laisse, ça va comme ça. Ok, Juliette, à toi. Dis plus fort, sinon les gens n'entendent pas.
Je ne sais plus quoi lui demander.
À ton choix, 1, 2 ou 3 ou 4. Tu prends un de ces 4.
Demande-lui quand est-ce qu'il a renoncé son ministère.
Donne-nous un résumé, Pierre, les 4 parties, comme ça, ça... c'est plus simple.
Alors, de 1 à 5, c'est le début du ministère de Jésus. De 6 à 10, c'est
Mystère avec les apôtres, de 7, non, pardon, de 11 à 13, c'est Mystère à Jérusalem, et Victoire sur la mort, c'est de 14 à 16.
Ok, super. Rappelez-vous, dimanche prochain, ceux qui étaient là pour comment Genèse, bien sûr, ça fait partie des questions. Romains, bien sûr. Et maintenant, on ajoute Marc, d'accord ? Donc, soyez pas surpris au début du sermon. Ceux qui n'étaient pas là, vous vous inquiétez juste de ce que, là où vous avez été présents. Mon but, c'est vraiment que vous ayez un bon repère. Et on va finir par un temps de prière. Et j'aimerais vous poser une question. Au verset 34 du chapitre 8, Jésus a dit « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie soi-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » J'ai une question à vous poser. Ne répondez pas à haute voix, répondez dans votre cœur à Dieu. Est-ce qu'il y a un domaine dans votre vie où vous sentez que votre soumission à Dieu, le règne de Dieu n'est pas complet, ou pas du tout là, ou que partiellement là ? Et je vous invite à prier et demander à Dieu son aide, afin que vous puissiez vous détourner de ce qui ne va pas et vraiment accueillir Jésus pleinement et dire « Oui, Jésus règne dans toute ma vie. » C'est ce que je souhaite pour moi et pour chacun d'entre vous. On va prendre un temps de prière que je vais ouvrir et on aura ensuite une ou deux minutes où vous pouvez prier pour discerner quel domaine dans votre vie vous sentez que le Seigneur pointe pour que vous puissiez avancer et vivre finalement en tant que disciple, comme Jésus nous invite à le vivre. Seigneur Jésus-Christ, tu nous dis que tu es doux et humble de cœur, que ton joug est doux et ton fardeau léger. Et c'est vrai, j'y crois. Et en même temps, tu nous dis qu'il ne faut pas qu'on soit naïf. Tu veux que toute notre vie soit à ta lumière, qu'on apprenne à se détourner de notre égocentrisme pour que vraiment notre vie soit une lumière pour ce monde. Une vie pleine de toi. Seigneur Jésus-Christ, montre-nous s'il y a un lieu dans notre vie, un domaine, des relations, des activités qui ne sont pas soumises à toi. Que nous puissions te les remettre, nous en repentir, nous détourner de cela, et qu'à travers cette semaine, nous puissions faire des pas de foi, afin que toi, tu nous aides à être libérés, car c'est par la foi que nous voulons marcher. Merci Seigneur pendant ces deux minutes de nous guider et de nous donner ta grâce pour pouvoir discerner avec toi. Amen. Merci Seigneur de nous aider à voir comment être fidèle. Que ce chemin simple auquel tu nous appelles, ce chemin de foi, d'amour et de vérité, nous puissions le vivre et porter ton fruit dans ce monde et se réjouir de t'appartenir avec cette paix que rien dans ce monde ne peut donner, cette paix des enfants de Dieu des frères de toi, Seigneur Jésus. Bénis chacun cette semaine de ta grâce et que nous puissions vraiment nous laisser visiter par ton esprit afin de laisser les recoins qui ont besoin d'être purifiés, être purifiés par ton esprit et que ta lumière soit glorifiée dans nos vies, Seigneur Jésus-Christ. Amen.